posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business entre World Tour. Tout à l'heure, on parlera de communication digitale avec les politiciens d'Amérique latine. Sacré sujet, ça.
C'est un programme.
Ça sera avec Aurore Géraud qui a bien potassé. Là, on est au top. Et puis notre French Tech, on fera un point sur le projet de loi sur la République numérique avec Laure de la Rodière qui est députée maire de l'Eure-et-Loire et qui sera avec nous aussi tout à l'heure. Et puis on retrouvera la rédaction de Zéronet.com dans quelques minutes. Mais dans l'immédiat, notre passion selon Sanet Lila, et on va parler de la réalité virtuelle qui est un vrai sujet à la mode. Hein. Vous savez, ces masques que l'on chausse sur le nez et qui nous permettent de découvrir des univers incroyables. Hein. C'est-à-dire qu'on est complètement coupé de la réalité et grâce à des écrans qu'on a devant les yeux, on est dans d'autres univers. On va s'intéresser peut-être à l'aspect médical de cette réalité virtuelle aujourd'hui.
Tout à fait, et davantage à la, on va s'interroger sur la perception de la réalité virtuelle par le cerveau. On a le plaisir d'avoir par téléphone un spécialiste, Daniel Mestre. Bonjour.
Bonjour.
Alors Daniel Mess, vous êtes directeur de recherche au CNRS, à l'Institut des sciences du mouvement, et vous êtes également responsable du centre de réalité virtuelle de Méditerranée. Donc vous étudiez un peu le comportement humain en situation immersive. Alors comme le disait François, 2016, c'est un peu l'année, on a l'impression, de la réalité virtuelle. Est-ce que vous pensez pour autant qu'on a suffisamment de recul? Quel est votre regard là-dessus, sur les impacts de la réalité virtuelle?
Mon regard, il est d'abord historique, parce que la réalité virtuelle, en fait, à ma connaissance, le premier casque qui a existé, c'était 1966. Pour vous dire que c'est une histoire qui est ancienne de ce point de vue-là, ça remonte. C'était des écrans cathodiques, à l'époque, c'était bricolé dans un laboratoire anglais. Donc voilà, donc c'est pas une histoire nouvelle. Donc quelque part, j'ai un recul que j'appelle historique, effectivement, de cette chose, en disant que la réalité virtuelle, ça existe depuis belle lurette. Ce qui se passe aujourd'hui, à mon avis, c'est que il y a effectivement une bande de geeks qui font du jeu vidéo, des gens très bien d'ailleurs, aux États-Unis, mais pas que, qui se sont mis effectivement à s'intéresser à ces technologies. Et en fait, on arrive aujourd'hui à une espèce de carrefour. On va voir ce que ça va donner. C'est passionnant de savoir ce qui va se passer dans les années qui viennent, parce que on a un carrefour entre ces gens passionnés de jeux vidéo qui se sont mis à s'intéresser à la question, et nous scientifiques qui travaillons là-dessus. Moi, j'y travaille depuis 15 ans maintenant. Et donc, par exemple, dans l'aéronautique, dans l'automobile, la réalité virtuelle est utilisée depuis pas mal de temps, mais avec des dispositifs qui coûtaient jusqu'à présent très cher. Et à mon avis, c'est un élément très important de ce qui se passe aujourd'hui, c'est que du coup, ces jeunes, plein d'idées et très dynamiques, qui se sont mis à travailler là-dessus, sont sortis avec des casques qui, jusqu'alors, coûtaient 10 000 euros et marchaient très mal, et nous ont sorti des casques qui coûtent 500 euros et qui marchent bien. Et ça a changé, c'est en train de changer beaucoup de choses. Quoi.
Daniel Mestre, est-ce que cette démocratisation de cette technologie vous fait peur, vous, en tant que chercheur dans ce domaine?
Non, pas du tout, au contraire, parce que ça permet effectivement de pouvoir faire des expérimentations avec des moyens légers, j'allais dire.
Ouais.
Vous voyez, mais c'est pas pour ça que tous les problèmes sont résolus, quoi.
Oui, parce que c'est pas anodin, hein, pour en tester, nous, ici, très souvent à BFM Business, on se rend compte que voilà, on est plus ou moins sensible en fait à ce genre de technologie. Il y en a certains qui se sentent mal, qui ont le mal de mer, qui ont la nausée, c'est mon cas. Hein. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi on sent pas très bien la plupart du temps quand on fait ce genre d'expérience? Et est-ce que c'est tout le monde qui a la même sensibilité?
Je dirais qu'il y a encore peu de temps, les systèmes étaient tellement mauvais en termes de temps de latence, en particulier, c'est-à-dire en gros entre ce que je fais et ce que je vois, que pas mal de gens étaient malades, effectivement. Et c'était un problème qui existe, y compris dans les systèmes lourds, où, effectivement, si vous commencez à avoir un retard notable entre le fait que je bouge ma tête et ce que je vois, si le retard devient important, je pense... Peut-être pas tout le monde sera malade, parce que ça fait partie des questions scientifiques non résolues. Il y a des gens qui sont plus malades que d'autres. Vous êtes peut-être malade d'emblée. Moi, ça va me prendre 20 minutes. Mais à un moment donné, il y a un problème quand même qui est lié effectivement à ce qu'on va appeler des incohérences entre le sensoriel et le moteur, quoi. Et donc, ça a bougé beaucoup, ça aussi, parce que je parlais des petits jeunes là qui ont travaillé sur les casques Oculus et autres. Ils ont réussi, à force de travailler, à réduire les temps de latence, ce qui fait que les gens sont moins malades qu'ils auraient été encore il y a 5 ou 6 ans.
C'est-à-dire, si plus on réduit ce temps de latence, plus on arrive à leurrer le cerveau et moins on est malade, c'est ça ?
Absolument. Et c'est la première réaction d'ailleurs qu'ont eu les gens qui ont mis des casques Oculus en disant « Ah, c'est l'immersion totale, c'est génial ». Si ce n'est qu'il y a encore des problèmes de latence, il y a des problèmes de fatigue visuelle. Là, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, si vous vous amusez avec des casques, mais si vous portez un casque pendant quelque temps, vous avez les yeux qui explosent, parce que vous êtes leurré effectivement par le monde virtuel, mais vous avez quand même des écrans à 2 cm des yeux, quoi. Ce qui n'est pas vraiment une vision naturelle. Donc, la limite, le malaise va venir de manière encore plus vicieuse, parce que vous êtes tellement bien immergé que vous ne vous rendez pas compte que vous fatiguez votre système, quoi. Tout ça pour dire que les problèmes ne sont pas tous résolus aujourd'hui, quoi.
Vous, de ce que vous observez, à quel point le cerveau peut aujourd'hui être vraiment grugé par certaines expériences de réalité virtuelle ? Qu'en est-il vraiment ?
La question, elle est complexe. Moi, je suis psychologue de formation, donc c'est une question qui m'intéresse bien, qu'on appelle la présence, qui fait que le sujet va effectivement, comme vous dites, être grugé, être trompé, va prendre le monde virtuel pour le monde réel. Et effectivement, ça peut aller assez loin, parce que, par exemple, sur les problèmes de... Je parlais des constructeurs automobiles. J'utilise la réalité virtuelle pour faire du design en particulier. Et les gens travaillent parfaitement avec ce genre de dispositif, c'est sur des maquettes virtuelles où effectivement, à un moment donné, ils travaillent là-dessus comme s'ils travaillaient sur un vrai véhicule, ce qui a plein d'avantages parce que ça fait des gains de productivité et autres. Donc je pense qu'on peut aller très loin en termes de tromperie, quoi. Mais et l'expérience que j'ai, moi, par rapport à ce qu'on fait actuellement en thérapie, c'est qu'il faut quand même que le sujet soit quand même prêt à se laisser gruger. Moi, mon expérience de la chose, c'est que, je ne sais pas si vous avez, vous, de votre expérience de votre côté, mais quelqu'un qui ne veut pas rentrer dans le jeu ne rentrera pas dans le jeu.
Oui, c'est un peu comme l'hypnose, c'est ça ?
Bah, à un moment donné, oui, il y a quand même quelque part un veto à lever, quoi.
Ouais.
Il faut être volontaire, quoi. Je crois. L'idée qu'on puisse gruger, comme vous dites, quelqu'un malgré lui, j'ai du mal à y croire, quoi. Heureusement, quelque part.
Alors, faisant partie du comportement humain, il y a également les gestes. On a pu développer certains gestes propres à la manipulation, par exemple, des smartphones. Est-ce que vous pensez que demain, avec la réalité virtuelle, on va peut-être se déplacer différemment ? On va peut-être développer de nouveaux gestes propres à la réalité virtuelle, à l'utilisation ? Je sais pas si ma question n'est pas un peu tirée par les cheveux pour le coup.
Non, mais votre question est intéressante parce que le problème qu'on a aujourd'hui, et Dieu sait si vous voyez Minority Report, par exemple, avec Tom Cruise, où effectivement on le voit en train de manipuler des écrans en faisant des grands gestes dans l'espace. Ça, c'est l'exemple qu'a essayé de développer Microsoft avec la Kinect, où on a essayé de vendre un dispositif où il n'y a plus d'interface, où les gens font des grands gestes pour manipuler des objets virtuels. Ça marche pas. On n'a pas trouvé aujourd'hui l'équivalent de la souris qu'on utilise tous de manière complètement intuitive, qu'un gamin de 2 ans manipule en 2 secondes. On n'a pas trouvé l'équivalent d'une interface comme ça en réalité virtuelle. On n'a pas trouvé le truc encore qui serait aussi génial qu'une souris dans un monde virtuel. On s'embête encore aujourd'hui avec des interfaces qui sont complexes. Ça fait partie des progrès qui vont être à venir, quoi, à mon avis.
Daniel Mestre, malgré tout, est-ce que vous pensez que le succès est assuré pour la réalité virtuelle ? Parce qu'on se rend compte que c'est quand même assez contraignant, il faut aujourd'hui des masques qui sont assez lourds, qui sont assez coûteux, la plupart du temps pour que ce soit efficace, il faut qu'il soit branché à un gros PC hyper puissant. On se rend compte que c'est pas anodin le fait de chausser ce masque. On voit que par exemple la télévision 3D dont nous vantaient les constructeurs il y a quelques années a été un échec. Est-ce que finalement on n'est pas en train de s'emballer sur un gadget ?
C'est une vraie question. C'est une vraie question qu'on se pose, nous, entre collègues, sur le fait qu'effectivement, on essaie de faire un coup marketing, alors qu'en fait, tous les problèmes ne sont pas réglés, et qu'en particulier, le fait de mettre un casque vous isole du monde réel. Et ça, c'est un vrai problème, à mon avis, sans remonter jusqu'à des considérations psychologiques sociales, si vous voulez. Mais ça pose un vrai problème, y compris le fait que quand vous avez le casque, vous ne voyez plus le monde réel. Et ça m'amène à quelque chose qui sera peut-être plus l'avenir de ça dans le grand public que les casques, c'est ce qu'on appelle la réalité augmentée. C'est le projet, par exemple, de Microsoft actuellement.
HoloLens, le fameux HoloLens.
Voilà. Ouais. C'est ce qui, à mon avis, est aussi un aspect très intéressant de l'évolution des choses aujourd'hui. Vous avez le monde réel et par-dessus superposé le monde virtuel, ce qui pose d'autres problèmes, mais qui éventuellement est notre ouverture. Donc tout ça, pour répondre à votre question, j'en sais rien, mais les casques, à mon avis, l'exemple de la télé 3D est un bon exemple, quoi. C'est pas parce qu'on pense qu'on va en vendre de tous les côtés. Par exemple, sur les forums, on trouve aujourd'hui pas mal de jeunes qui disent « ça coûte trop cher ». Ça coûte trop cher, je préfère jouer avec mon PC qu'acheter un truc comme ça parce que ça coûte trop cher. Et j'ai même eu des remarques de jeunes qui disent qu'à la limite, c'est trop immersif et quand on joue à des jeux un peu gore, si vous voulez, ça fait trop peur, quoi.
Ouais.
À la limite, vous voyez le problème, c'est du coup c'est que ça devient trop immersif et du coup les gens vont peut-être s'en détourner aussi à cause de ça. Il y a le côté isolement social.
Exactement, c'est la question que j'allais vous poser parce que c'est vrai que là on est complètement isolé et on peut imaginer que quelqu'un qui soit peut-être dans une situation un peu psychologiquement fragile, qui veut s'évader d'un quotidien qui est pas forcément très agréable, il y a pas ce risque justement de vouloir se plonger dans ce monde et se couper encore plus de la réalité. Avec les conséquences, des conséquences dramatiques.
Oui, oui. Là, c'est typiquement là où on n'a pas beaucoup de recul. Il y a une vidéo qui est tournée il y a quelques temps sur YouTube, à Boston, dans le métro à Boston, il y avait un gars qui jouait à un jeu vidéo avec son casque sur le nez. Et les gens l'avaient filmé parce que ça faisait vraiment bizarre, quoi. Ça faisait bizarre, je sais pas comment dire autrement, mais ça faisait bizarre de voir ce jeune qui poussait des petits cris parce qu'il devait jouer à un jeu d'horreur, un truc comme ça, quoi. Mais ça fait bizarre. Donc, à mon avis, socialement, c'est pas encore accepté, oui. Et je suis pas sûr qu'effectivement, il n'y ait pas des dangers. Alors ça, c'est un vaste débat sur lequel j'ai pas moins de recul sur le fait qu'effectivement, ça puisse créer des problèmes psychologiques chez les sujets fragiles. Ça serait un peu le revers de la médaille de l'immersion. Ok, c'est très immersif, comme je le disais tout à l'heure, du coup, ça peut faire peur. Mais aussi, ça peut couper des gens.
Oui, créer une addiction aussi, pourquoi pas. Merci beaucoup, Daniel Mestre. Merci pour ces précisions. Passionnant sujet, en tout cas. Merci.
Merci.
Et on revient dans un instant pour la suite de cet atelier numérique sur BFM Business. Vous restez là, World Tour et French Tech. À tout de suite.
L'atelier numérique. François Sorel sur BFM Business.
Merci d'être avec nous. La rédaction de Zeronet.com dans un petit quart d'heure avec Éric Le Bourlou. On s'intéressera aux gros titres d'actualité de cette semaine que vous avez pu lire sur Zeronet.com. Mais dans l'immédiat, notre World Tour. Quelle communication digitale pour les politiciens d'Amérique latine? On voit ça avec Aurore Géraud et votre invité, Aurore.
Alors, cette semaine, on fait une spéciale politique. Et pour ce World Tour, je suis en compagnie de Gaspard Estrada, qui est directeur de l'Observatoire politique d'Amérique latine et Caraïbes à Sciences Po. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous étiez mercredi à un événement organisé par le Social Media Club, Startup Bricks et l'Institut français sur les enjeux du web social en Amérique latine. C'était organisé à la Gaîté Lyrique. Donc, on va faire un petit point sur la communication politique en Amérique latine. En 2015, une étude du groupe de recherche Digital Policy Council avait dévoilé que sur 10 leaders politiques les plus followés au monde, 4 provenaient d'Amérique latine. Est-ce que c'est une tendance que vous constatez ?
Oui, c'est une tendance que je constate. L'Amérique latine est une des régions du monde où les réseaux sociaux sont les plus développés, où justement l'usage est aussi a été massivement adopté par les populations. Il ne faut pas oublier aussi que la pyramide des âges s'y prête, c'est-à-dire que la plupart des Latino-Américains sont jeunes, il y a moins de 25 ans, et donc cela a un impact sur les usages des réseaux sociaux. Et donc les jeunes utilisent ces réseaux sociaux justement pour communiquer, et donc c'est ce qui produit que les hommes politiques s'y intéressent justement pour pouvoir se rapprocher de leurs électeurs.
Donc c'est clairement parce que ils ont une cible qui a l'écoute, mais est-ce que on n'est pas limité d'un point de vue infrastructure télécom?
Oui et non, parce que l'Amérique latine à l'image de ce qu'est cette région, la région la plus inégalitaire du monde, bah cela a aussi une traduction sur la vie numérique des Latino-Américains. Il ne faut pas oublier que l'homme ou l'un des hommes les plus riches du monde, Carlos Slim, possède un empire de télécom en Amérique latine, América Móvil, qui partage avec l'espagnol Telefónica le contrôle en quelque sorte des réseaux télécom en Amérique latine. Vous pouvez avoir de la fibre optique, vous avez la 4G au Mexique, au Brésil, en Colombie, mais il y a aussi une très grande fracture numérique, ce qui explique qu'aujourd'hui uniquement 30% des Latino-Américains ont de fait accès à Internet, mais parmi ceux qui ont accès à Internet, ils l'utilisent ce moyen justement de manière très intensive.
Du coup, comment on peut imaginer la manière de communiquer ? Est-ce que ces différents réseaux sociaux, est-ce que c'est principalement Twitter ? Est-ce que on peut voir, vous parliez lors de votre table ronde, d'une américanisation de la manière de communiquer ?
Oui. Pourquoi ? Parce que au moment des transitions politiques en Amérique latine, les grandes fondations des partis politiques américains ont soutenu la transition démocratique en Amérique latine de manière assez paradoxale, c'est-à-dire en finançant l'exportation en fait des consultants politiques américains en Amérique latine, et donc cela a eu une conséquence directe sur la manière dont sont organisées et dont se déroulent les campagnes électorales en Amérique latine. Et donc la question et la figure du consultant externe dans les campagnes électorales est devenue aujourd'hui une figure centrale dans les campagnes électorales en Amérique latine. Et donc ces consultants aujourd'hui sont devenus vraiment un élément central dans ces campagnes. Il y a eu aussi une latino-américanisation de ce marché-là, et donc les outils qui ont été développés aux États-Unis en ce qui concerne non seulement la publicité télévisée mais aussi aujourd'hui les réseaux sociaux, ben ces mécanismes-là ont été non seulement importés mais ont eu aussi un développement propre à l'Amérique latine, ce qui fait qu'aujourd'hui le marché des consultants latino-américains en ce qui concerne les réseaux sociaux est un marché très développé.
Est-ce que on voit au niveau de la communication quelque chose de purement politique ? Est-ce qu'on voit à la Barack Obama des likes vers des choses un peu plus légères, on va dire ?
Oui, je le pense. Même si il faut bien avoir à l'esprit que les sociétés sont différentes. Les sociétés latino-américaines pourraient être plus conservatrices que les américaines sur certaines valeurs, et donc cela a aussi un impact sur la manière dont on communique. Mais je pense que en effet, aujourd'hui, la communication politique est rentrée dans les réseaux sociaux parce qu'il s'agit, ça répond là à un usage des latino-américains, notamment des jeunes, et notamment du fait de la croissance exponentielle de l'usage du mobile dans cette région.
Alors du coup, vous parliez de consultants en réseaux sociaux. Est-ce que on peut imaginer que les politiques tweetent eux-mêmes ou envoient des posts eux-mêmes, ou est-ce qu'on est principalement géré par un community manager ?
Il y a deux sortes d'hommes politiques. Je crois que de la même manière qu'en France, il y a des politiques qui assument leur communication digitale directement à leurs risques et périls, mais il y en a d'autres qui ont confié cette tâche à des équipes de professionnels. Il faut pas oublier que dans le marché mondial de la communication politique, il y a aujourd'hui par exemple des consultants brésiliens qui sont de plus en plus présents en Afrique dans des marchés qui étaient traditionnellement dévolus à des consultants plus nord-américains, européens ou en tout cas occidentaux, et aujourd'hui ils sont en tout cas concurrencés par ces consultants sud-américains qui sont un moins chers et deux qui ont une réelle expérience de pays où cette fracture numérique existe.
Merci beaucoup Gaspard Estrada.
Merci à vous.
Aurore, après notre World Tour, place à notre French Tech Tour. Et cette semaine, on fait un point sur le projet de loi sur la République numérique. Vous avez rencontré cette semaine Laure de la Rodière, qui est députée maire d'Eure-et-Loir.
Pour le French Tech Tour de cette semaine, je suis en compagnie de Madame la députée Laure de la Rodière, qui est députée d'Eure-et-Loir. Bonjour.
Bonjour.
on reste sur l'aspect politique et on va parler un petit peu, on va faire un point dans un premier temps sur la loi pour la République numérique. On a vu que celle-ci était passée au Sénat le 3 mai dernier. La prochaine étape, je crois que c'est une commission mixte paritaire. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit point dessus ? Est-ce que vous avez l'impression que ce passage marque quelque chose ? Est-ce que vous avez eu l'impression que les sénateurs ont ouvert les yeux peut-être sur l'aspect sur l'évolution numérique ?
Les débats à l'Assemblée nationale comme au Sénat ont été de bonne qualité et c'est peut-être une des premières fois que au sein du Parlement on a des débats suffisamment techniques et avec des députés très compétents, investis sur ces sujets-là, qui ont participé.
Donc pour la commission mixte paritaire, à quoi on peut s'attendre ? On a vu que là, par exemple, au Sénat, ça avait été voté à quasi majorité. Est-ce qu'on peut attendre un petit peu plus de remous ?
Non, moi je pense que la commission mixte paritaire peut aboutir puisque il n'y a pas eu d'opposition au texte ni à l'Assemblée nationale ni au Sénat. La version du Sénat est différente de celle de l'Assemblée nationale et il y a certains points qui seront en débat. En particulier, les sénateurs ont introduit l'obligation d'avoir une analyse de risque systématique avant la mise en ligne par les collectivités et par les administrations des données publiques. Je pense que ça va freiner considérablement le développement de l'open data et nous aurons à cœur de demander aux sénateurs de revenir sur la version de l'Assemblée nationale. Sur un autre sujet introduit par le Sénat qui a beaucoup fait parler de lui, ça concerne la fiscalité et notamment la déclaration du chiffre d'affaires réalisé par les particuliers sur des plateformes de services en ligne, que ça soit Blablacar, Airbnb. La logique du Sénat est de demander finalement une aide à ces plateformes pour que ce qui est dû au titre des impôts puisse l'être fait plus facilement. Parce que aujourd'hui, si vous louez, si un particulier loue son appartement, il doit payer des impôts sur le revenu qu'il tire de cette location. C'est la loi. Le problème que je vois avec cet amendement, c'est qu'on peut pas comparer la location d'un appartement, même pour courte durée, sur Airbnb, d'une partage de voiture, où là, il n'y a pas de revenu supplémentaire réalisé par le conducteur qui a mis à disposition des places dans sa voiture, mais il y a juste un partage de coûts. Or, c'est le même amendement qui va s'appliquer. En revanche, je trouve intéressant ce que les sénateurs ont voté en matière de open data sur la jurisprudence des tribunaux civils et administratifs. Donner accès, ça va permettre des nouveaux services pour apporter une meilleure connaissance des droits pour les citoyens français. Et ça, je pense que c'est intéressant de rester sur la version Sénat.
Donc on parle d'open data à l'instant, on parle aussi du fait que cette loi, elle a eu des contributions citoyennes sur le site républiquenumérique.fr. Est-ce que pour vous c'est important qu'il y ait un apport, même une voix, on va dire, du citoyen ?
Moi j'ai trouvé ça très intéressant, la démarche d'ouverture en amont de l'examen du texte aux commentaires de tous les citoyens qu'il souhaitait, mais aussi de toutes les associations ou de toutes les personnes morales portant des intérêts privés. Pour autant, peu de choses ont été retenues des commentaires des citoyens dans le texte de loi final, peut-être parce que c'est compliqué de savoir ce qui est du ressort de la loi, ce qui est du ressort du niveau européen, ce qui est du niveau du décret ou de la circulaire, et ce qui est aussi juste de la peut-être du ressort de la communication politique, on soutient ou non telle mesure sans pour autant en faire l'objet d'un amendement. Donc ça, mais en débattre et ouvrir les contributions enrichit de toute façon l'analyse que peut avoir le gouvernement sur un sujet ou bien évidemment enrichissent les informations que peuvent avoir les parlementaires sur un sujet. Donc c'est une très bonne démarche.
Vous parliez de reproduire ce type d'initiative. Vous avez lancé une plateforme de débat
Oui, j'ai lancé une plateforme de débat intitulée Numérique 2017, tous numériques, en vue de l'élection présidentielle. Moi, ça fait plus de huit ans que je suis députée de Eure-et-Loir. Ça fait plus de huit ans que je travaille sur les enjeux du numérique et sur la transformation de l'économie à l'ère du numérique. Et je trouve que la façon dont on pose le sujet d'un point de vue politique est totalement insuffisant. Il s'intéresse au numérique sur les aspects start-up, French Tech et sur le déploiement du très haut débit. Ils en restent là. Et ils oublient de regarder finalement comment le numérique transforme la société. Ce sont toutes les politiques publiques qui vont être transformées demain. L'éducation, la formation professionnelle, la santé, bien évidemment. Voilà ce que j'attends, en fait, moi, de cette plateforme de débat, c'est de pouvoir alimenter la réflexion des candidats à l'élection présidentielle et de leur poser des questions politique publique par politique publique, de savoir comment, en fait, ils voient l'impact du numérique sur la transformation de la société.
On vous le souhaite, alors. Merci beaucoup.
Aurore, merci. Vous restez avec nous. La suite de l'atelier dans un instant. Direction la rédaction de Zéronet.com. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business, le crash test d'Antoine dans un instant pour terminer ce rendez-vous. Mais auparavant, direction la rédaction de Zéronet.com avec Eric Le Bourlou. Bonjour Eric.
Bonjour.
Rédacteur en chef donc de Zéronet.com, le premier site d'actualité high-tech en France. On va commencer par les rumeurs concernant le prochain rendez-vous la semaine prochaine. Google, qui nous prépare donc son Google I.O. C'est le grand rendez-vous des développeurs qui rencontrent Google.
Exactement, c'est le grand rendez-vous de Google annuel. C'est là que Google présente une grande partie de ses nouveautés. Alors ils font ça à la maison, ils font ça à domicile, ils font ça à Mountain View, juste à côté de leur Googleplex, leur siège.
Bon, ils ont un grand domicile, c'est ça qui est assez pratique.
Ils ont un grand domicile, voilà. Donc ça va commencer mercredi, et voilà, on s'attend à pas mal de nouveautés de la part de Google pour cette Google I/O. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que voilà, on a déjà eu quelques informations sur ce qu'ils vont évidemment montrer. On sait déjà qu'on n'en saura plus sur la prochaine version d'Android, et c'est pas rien puisque Android, on le sait, c'est peut-être aujourd'hui le système d'exploitation le plus populaire au monde, qui équipe à peu près 80% des smartphones dans le monde, beaucoup de tablettes. Voilà, on sait pas ce qu'ils vont faire sur les ordinateurs.
Bien devant iOS d'Apple.
Bien sûr. Exactement, bien devant iOS d'Apple.
Donc là, cette version s'appellerait Android N. Enfin, en tout cas, c'est son nom de code.
Voilà.
Alors le N, on sait pas trop ce que ça peut bien vouloir.
Ce sera un gâteau, c'est tout ce qu'on sait, mais on ne sait pas encore quel.
Donc c'est pas Nutella, au moins. Comme ça, c'est réglé.
On ne sait pas. Ils ont déjà fait KitKat, pourquoi pas Nutella.
Donc ils pourraient prendre une marque. On verra.
Pourquoi pas. Mais en tout cas, on en saura plus cette version d'Android. Mais Google va sans doute nous montrer aussi de belles surprises et devrait un petit peu aussi rattraper son retard en matière de réalité virtuelle. Il y a beaucoup de gens qui sont positionnés sur la réalité virtuelle, Microsoft, Facebook et Google. Bon, ils avaient été un peu pionniers en lançant le Cardboard, ce petit casque à faire soi-même, open source, etc.
En carton.
Voilà, qui n'est pas très cher, mais pas non plus très intéressant face à la concurrence qu'il y a aujourd'hui, Oculus Rift ou HTC Vive, par exemple. Donc là, Google pourrait présenter une version spécifique d'Android pour la réalité virtuelle. Alors ça, c'est très intéressant parce que, comme pour les smartphones aujourd'hui, vous avez plein de smartphones qui tournent sous Android, et bien Google pourrait proposer une version d'Android pour des casques que n'importe quel constructeur pourrait réaliser. Et donc, créer un écosystème comme ça de casques de réalité virtuelle. Donc ça, sans doute qu'on va le voir. Et on va peut-être même avoir le casque de Google, le premier casque de réalité virtuelle de Google, le premier vrai casque, on va dire, avec une vraie intelligence dedans.
Oui, parce qu'on comprend pas trop pourquoi Google est hors du coup là encore pour l'instant.
Exactement. Alors ils auraient effectivement développé un petit peu en secret un casque à eux. Et la grosse différence qu'il aurait ce casque avec ce qu'on a déjà vu, notamment le HTC Vive, l'Oculus Rift, etc., c'est qu'il serait indépendant. C'est-à-dire que vous n'auriez pas besoin de le connecter à un ordinateur.
Pour qu'il fonctionne, voilà.
Parce que là, vous avez besoin, pour les casques actuels, d'avoir un ordinateur puissant qui va fournir l'image sur l'écran du casque.
Et plein de fils, bien sûr, qui sont branchés au masque, ce qui fait que c'est pas facile à manipuler.
Exactement. Donc là, on pourrait voir un casque qui est autonome. Vous le mettez, vous n'avez pas de câble, vous avez une batterie, évidemment, pour pouvoir vous afficher l'image.
Mais donc, il n'intégrerait pas un smartphone.
C'est un peu une question, mais sans doute qu'effectivement, il n'y aurait pas de smartphone. Ce serait un casque avec des composants de smartphone, parce que finalement ce serait simplement les mêmes composants, hein, le même processeur, la mémoire et Android, une version spécifique d'Android qui tournerait dessus, mais sans avoir, comme sur les casques de Samsung par exemple, besoin d'insérer son smartphone dedans. Parce que le problème, c'est qu'effectivement, vous devez avoir un smartphone qui correspond au casque, c'est un petit peu compliqué, etc. Donc voilà, ça c'est sans doute le matériel qu'on va voir la semaine prochaine à la Google I/O, mais il y aura d'autres choses, autant que cette vision de la réalité virtuelle de Google, elle s'accompagne d'autres choses qu'a fait Google précédemment et qui pourraient améliorer ce casque. Et c'est notamment le cas de Project Tango. Alors Project Tango, c'est un projet dont on n'a pas beaucoup entendu parler encore, mais qui est assez intéressant puisque c'est en gros, ça consiste à donner au smartphone une notion du volume d'une pièce, exactement. C'est-à-dire que en gros, votre smartphone peut calculer là où il se trouve, savoir où se trouvent les murs.
C'est un peu comme un GPS à l'intérieur.
Un GPS à l'intérieur, tout à fait. Il peut mapper en fait toute la pièce à l'intérieur, ce qui pourrait avoir une grande utilité en effet pour un casque de réalité virtuelle, parce que du coup, vous pourriez vous déplacer au sein d'une pièce avec votre casque et voir un environnement qui évolue avec vous. Donc ça fait partie des choses qu'on pourrait voir aussi, le projet Tango. En tout cas, il y a beaucoup de sessions qui sont prévues autour du projet Tango chez Google. Bon, alors voilà, ça c'est Android N, la réalité virtuelle, le projet Tango. On sait aussi qu'il pourrait avoir des updates sur la voiture autonome, parce que ça c'est un gros sujet chez Google.
Un gros chantier aussi chez Google.
Un gros chantier, et on sait que
on entend moins parler des Google Car en ce moment. Alors est-ce que ça voudrait dire qu'il y a peut-être un...
Voilà, en fait on sait par contre que Google s'apprête à dire que ça y est, presque, elle est prête, quoi.
Ouais.
Elle est presque prête. Mais peut-être qu'ils vont en profiter là, on ne sait pas pour l'instant, mais en tout cas, on aura sûrement des mises à jour, des updates, des nouvelles de cette voiture autonome à la Google I/O.
Google qui pourrait aussi annoncer une espèce de nouvelle interface, un peu à l'écho d'Amazon, ce petit appareil étrange à qui l'on parle et qui comprend ce qu'on dit et nous répond.
Exactement. Alors ça, c'est un gros carton aux États-Unis. Alors c'est pas disponible en France malheureusement, mais c'est un des produits les plus vendus sur Amazon aux États-Unis. Ça, c'est bluffant parce que vous accueillez quelqu'un chez vous. En gros, c'est effectivement, c'est comme un Siri, mais que vous avez dans votre salon et vous simplement à base d'une commande vocale, vous l'appelez.
C'est un peu le majordome.
Un majordome, voilà.
C'est ça.
Vous lui commandez vos coups. Vous lui demandez d'allumer la musique, etc., etc., et effectivement il s'exécute. Google évidemment n'a pas encore lancé de tels produits, mais ils ont déjà toutes les technologies nécessaires, on connaît OK Google, la fameuse phrase, pour faire la même chose. Et il se pourrait bien que cette année effectivement Google lance un produit similaire au Amazon Echo qui s'appellerait Chirp, qui veut dire gazouiller un peu en anglais, donc auquel on pourrait, voilà, Google, vous serez maintenant dans votre salon et vous pourriez faire d'un OK Google, commander tout ce que vous voulez sur internet, faire des recherches, voilà, appeler quelqu'un, enfin ce que vous voulez, ce que vous faites déjà avec votre smartphone, mais sans avoir à sortir votre smartphone.
Voilà, cette Google I/O, donc on aura des informations plus concrètes la semaine prochaine. On va rester sur la côte ouest des États-Unis, remonter un tout petit peu et aller du côté du Nevada, où a eu lieu une expérimentation dingue cette semaine. Peut-être qu'on a vécu le lancement d'un nouveau système de transport, celui de demain peut-être.
Exactement, Eric. Puisque c'était la première démonstration publique d'une technologie Hyperloop. Alors Hyperloop, on rappelle ce que c'est pour ceux qui ne le savent pas, c'est un projet qui a été jeté comme ça sur la table par Elon Musk, le fondateur de SpaceX, Tesla, etc., qui a dit voilà, ça pourrait être intéressant de faire un train supersonique en fait, et puis voici les bases, et puis maintenant débrouillez-vous avec.
Voilà, je vous donne l'idée. L'idée, lui n'investit pas, ou alors en tout cas de manière très...
Il a un petit
sous-marin,
exactement.
Voilà. Il a décidé de ne pas s'en occuper comme il s'occupe de SpaceX ou de Tesla.
Exactement. Hein, voilà. Mais par contre, il va faire un concours bientôt où il va faire concourir toutes les entreprises qui ont décidé de dire ouais, c'est bon, on y va, on va essayer de construire un train supersonique. Et voilà. Et c'était la première démonstration d'une de ces entreprises qui s'appelle Hyperloop One, qui a, dans le plein désert du Nevada, construit une piste d'essai pour cette Hyperloop. Alors, autant vous dire, la démonstration n'était pas très impressionnante. C'est la première démonstration, mais ils ont quand même montré que leur système de propulsion fonctionnait. Alors, il y a eu un petit véhicule comme ça qui est parti à peu près sur une centaine de mètres et qui est monté alors très vite en accélération, qui a accéléré jusqu'à à peu près 200 km/h et qui a ensuite freiné, et juste pour montrer que leur système de propulsion fonctionnait. Et que ensuite, bon, il y a encore énormément de défis techniques à résoudre pour arriver, et en plus ce serait des investissements énormes, mais effectivement voilà, on a déjà le système de propulsion qui fonctionne. En gros, pour eux, c'est 30% du travail technologique qui est fait reste 70% évidemment, parce qu'il faut réussir à propulser quelque chose dans un tube vide de pression pour le faire accélérer jusqu'à une vitesse assez folle.
En toute sécurité,
en
parce
toute
que
sécurité évidemment.
Le but du jeu, c'est après de propulser des humains là-dedans. Pour vous donner un ordre d'idée, la jonction Los Angeles-San Francisco se fera en 30 minutes alors qu'il y a 600 km.
Exactement.
Hein, 600 km.
Exactement, ce sera un Paris-Marseille en 40 minutes,
voilà,
aussi, on peut
ça.
Le dire à peu
donc,
près.
C'est
absolument
c'est
génial. C'est et d'ailleurs, c'est BFM Business hein, d'ailleurs, qui l'a dévoilé en exclusivité. Mm-hmm. La SNCF aussi a investi dans ces entreprises-là, ouais. dans cette entreprise en question, pour voir un petit peu ce qu'ils faisaient et pour pouvoir savoir.
C'est
un
pas
petit
anodin,
peu.
Hein, la SNCF. Alors, ils ont mis quelques millions d'euros quand même.
Oui, mais c'est pas anodin, mais voilà, ils veulent voir un petit peu ce que fait cette entreprise, donc ils ont investi dans Hyperloop One.
Voilà. Et puis en plus, ils ont un calendrier assez impressionnant, c'est-à-dire que d'ici 2019, ils pourraient transporter du fret.
Du fret, ouais.
Et en 2021, donc 2021, c'est quoi? C'est dans 5 ans, hein. Les premiers humains pourraient être transportés avec cette technologie.
En fait, on se rend compte, alors que ce projet a été dévoilé par Elon Musk il y a quelques années, on s'imaginait peut-être pas déjà voir les premiers tests publics de cette technologie, ouais.
On va parler maintenant de musique avec une nouvelle application qui vous permet d'écouter votre musique. Alors, elle existe depuis longtemps, mais elle passe en mode payant. Il s'agit de SoundCloud.
Oui, c'est assez intéressant parce que SoundCloud, c'est une boîte allemande. Alors, c'est bon, c'est une boîte européenne. C'est bien de le signaler.
Et ils offrent un peu comme Spotify d'ailleurs.
Un peu comme Spotify, tout à fait, qui est suédois. SoundCloud, c'était un repère pour les mélomanes, hein, pour les gens qui adorent la musique jusqu'à présent. C'est un endroit où beaucoup de groupes, beaucoup d'artistes, beaucoup de DJ ont mis leur musique gratuitement et c'est très connu sur Internet parce que c'est un site très communautaire et très intéressant à surfer parce qu'il est très agréable. Et
on trouve de tout,
Et on trouve de tout, y compris des mixtapes, des démos, etc. Et SoundCloud a donc décidé effectivement de se lancer dans une offre payante au même prix que Spotify, Deezer, etc., Apple Music, donc à peu près 10 euros par mois, où vous pouvez avoir le même catalogue en fait de musique que tous ces géants, mais aussi tous les titres qui ont déjà été uploadés par ces artistes, ces gens, ces fans de musique sur la plateforme. Et au total, on arrive à un catalogue absolument hallucinant de plus de 100 millions de titres, alors qu'on est à peu près 30 millions de titres hein, sur un Spotify
ou Deezer ou même
Deezer,
Apple Music,
ou Apple Music parce que il y a eu plein d'uploads de morceaux au préalable avant. Et vous pouvez évidemment faire la même chose que sur les autres plateformes, c'est-à-dire télécharger vos contenus, les écouter offline, etc., lancer des radios. Alors, c'est pas aussi ergonomique que Spotify ou Apple Music, hein, on le dit clairement, on l'a essayé, c'est pas aussi bien fait pour l'instant, ils ont pas les mêmes moyens, il y a plein de choses qui sont embêtantes, notamment vous pouvez pas naviguer par album, alors ils promettent que ça va être très rapidement mis à jour pour qu'on puisse le faire, mais c'est en tout cas un nouvel acteur très intéressant qui pourrait vraiment séduire les vrais fans de musique.
Tout à fait.
Les gens qui
Autant
ont envie de découvrir.
Il y a une dimension sociale qui n'est pas peu présente sur les autres réseaux,
Exactement,
sur les autres services
plus,
de musique.
Oui, effectivement, elle est beaucoup
streaming.
Plus présente sur SoundCloud. Mm-hmm. Et c'est vraiment un service pour les gros amoureux de musique en tout genre et qui est fait pour découvrir de nouvelles choses. Et ça, c'est plutôt pas mal.
Eh bien voilà, merci beaucoup Eric.
Merci.
Eric Le Bourlou, rédacteur en chef donc du site 01net.com, le premier site d'actualité high-tech en France. Vous restez avec nous, la suite et la fin de cet atelier dans un instant avec Guillaume de Groisse et puis le crash test d'Antoine Cyr. On est là dans une minute.
L'atelier numérique. François Sorel sur BFM Business.
Et oui, les meilleures choses ont une fin. Dans un instant, on conclura cet atelier avec le crash test d'Antoine Cyr. Mais dans l'immédiat, c'est notre décryptage. Et cette semaine, c'est avec Guillaume de Groisse. Guillaume.
Bonjour à tous, bonjour François. Vous vous en souvenez peut-être, j'avais évoqué lors d'un précédent décryptage les évolutions venues de la Silicon Valley dans l'univers du transport. Je vous avais entre autres parlé d'Hyperloop, sujet sur lequel Antoine a d'ailleurs fait un crash test il y a peu. Eh bien aujourd'hui, je vais vous parler à nouveau d'Hyperloop, car vous n'avez sans doute pas manqué le premier essai réussi d'un train dans le Nevada mercredi dernier. Alors Hyperloop, c'est ce projet pharaonique et complètement fou, initié par Elon Musk en 2013. Projet fou car son objectif est de créer un cinquième moyen de transport de personnes, après la voiture, le bateau, l'avion ou le train, rien que ça. Alors comme souvent dans la Silicon Valley, et plus encore quand on parle d'Elon Musk, qui a quand même à son actif les navettes spatiales, SpaceX et les voitures électriques Tesla. Plus le projet est énorme, plus le projet semble impossible, moins cela semble un frein, bien au contraire. D'ailleurs, comme certains projets lancés par Google, on pense à la voiture sans chauffeur pour qu'il n'y ait plus de morts sur les routes, ou le projet Loon qui vise à rendre Internet accessible dans les zones blanches de la planète grâce à des ballons stratosphériques, les projets initiés par Elon Musk ne semblent pas être des projets avant tout commerciaux. Ce sont des projets en lien avec des innovations de rupture qui doivent à terme changer notre quotidien. Alors, que faut-il retenir de ce projet Hyperloop ? Tout d'abord, c'est un projet qui repose technologiquement sur la magnetic levitation, la sustentation électromagnétique en français. C'est-à-dire qu'une sorte de train circule en lévitation sur un rail et évite ainsi les frottements. Ce type de technologie a déjà été testé en Asie, puisque des trains maglev, comme on les appelle, circulent déjà en Chine, au Japon et en Corée. Et que le train le plus rapide du monde est un train maglev japonais, flashé à 603 km/h l'an dernier, ce qui est à peine plus finalement qu'un TGV qui atteint à vitesse de test 574 km/h. Le principe a donc fait ses preuves. Ensuite, là où Hyperloop va plus loin, c'est qu'il utilise le principe, mais pas tout à fait la technologie existante, préférant faire circuler ses capsules sur des coussins d'air dans un tube à basse pression, ce qui devrait lui permettre d'atteindre la vitesse de 1000 km/h. Au-delà de la technologie, ce projet Hyperloop est aussi intéressant par son modèle de développement. En 2013, Elon Musk, qui s'investit toujours à 1000% dans ses projets, a de façon assez pragmatique décidé de laisser le projet Hyperloop accessible à tous, publiant l'ensemble des recherches qu'il avait déjà financées sur le sujet, notamment sur l'énergie et la propulsion, empruntant ainsi au mode de collaboration open source. Depuis, plusieurs sociétés se sont emparées du sujet. Hyperloop Transportation Technologies, HTT, en Californie, qui reste relativement discrète sur ses avancées, Transpod au Canada, et enfin Hyperloop One, qui vient de réussir à faire rouler son train maglev à 640 km/h et qui a bouclé une levée de fonds de 80 millions, à laquelle d'ailleurs a participé la SNCF. Dernier point et non des moindres sur ce sujet, les estimations faites par Elon Musk sur le coût de la ligne Hyperloop entre San Francisco et Los Angeles seraient de 6 milliards de dollars, ce qui est en fait 10 fois moins que le coût de la ligne à grande vitesse que l'État de Californie est en train de construire. Alors bien sûr, cette estimation est sujette à caution, mais elle rend le projet très très attractif. Alors, il est hyper difficile de savoir si dans 10 ans nous voyagerons dans des capsules Hyperloop, si le projet fou lancé par Elon Musk sera devenu réalité, ou si au contraire les obstacles techniques mais aussi politiques et sociaux auront eu raison de l'enthousiasme qui se répand à très grande vitesse sur la toile cette semaine. En effet, certains mettent déjà en doute la capacité d'Elon Musk et des sociétés qui développent le projet à faire accepter la construction de nouvelles voies à destination de l'Hyperloop dans les villes, ce qui relèguerait l'Hyperloop, comme les aéroports, loin des centres-villes et rendrait donc son attractivité moindre qu'une ligne à train à grande vitesse. Car si vous faites Los Angeles-San Francisco en 30 minutes, mais qu'il vous faut 1h30 pour récupérer la gare de l'Hyperloop, on perd de l'intérêt du projet. De la même manière, Elon Musk suggérait de développer des lignes Hyperloop sur pylônes le long des autoroutes. Nombreux sont ceux qui voient cela comme une fausse bonne idée, puisque premièrement, il faudrait fermer les autoroutes pour construire les lignes, et qu'ensuite, personne n'a encore étudié les impacts du magnétisme des trains sur les voitures ou même sur les personnes vivant à proximité de ces lignes.
Merci Guillaume, et tout de suite, place à votre rendez-vous en compagnie d'Antoine Cyr pour le crash test.
L'atelier numérique sur BFM Business.
Antoine, on va avoir comme point de départ pour notre crash test cette semaine les étoiles filantes.
Oui, je me dis que voilà, alors ça part d'une certaine dose d'autosuggestion. Je me dis l'été approche.
C'est vrai. Bon, il n'est pas encore là tout à fait.
Non.
Mais il approche.
On n'a jamais été aussi près de l'été.
Oui, et c'est vrai. Par rapport à hier.
Par rapport à, en tout cas, quelques mois. Non, ouais. Avant, on était plus près. Mais là, vraiment, on s'en rapproche.
C'est bien. J'aime bien cet aspect optimiste.
Voilà. Voilà. Il y a aussi dans Knock, le docteur Knock qui dit à un patient, qui lui dit, je suis en pleine santé. Il lui dit, vous n'avez jamais été aussi près de votre mort, pourtant. Bon, voilà. Mais ça marche avec la mort, mais ça marche aussi avec l'été.
Avec l'été,
ce qui est quand même plus
agréable. Ouais.
Donc, parlons des étoiles filantes. Vous allez voir, il y a un rapport avec l'été. Alors, d'abord, ce qui est extraordinaire dans les étoiles filantes, et ça, dès que vous tapez étoiles filantes sur votre moteur de recherche, vous le comprenez, les étoiles filantes ne sont pas des étoiles, et elles ne filent pas. Donc elles ont voilà, elles ne sont ni étoiles ni filantes, c'est quand même pas mal quoi. Ouais. Parce que quand on vous parle par exemple de policier mécontent,
c'est bien
un,
ça.
C'est un policier et il est mécontent.
Voilà.
Et ben, quand on vous parle d'étoiles filantes,
ben non.
Elle n'est ni étoile ni filante. Voilà. Donc ce sont en fait de minuscules poussières extraterrestres qui pénètrent dans notre atmosphère, et ce qui se passe c'est qu'elles s'échauffent et elles se consument en une fraction de seconde en dessinant des stries lumineuses dans le ciel, voilà. Donc c'est ça qui est.
Oui. En fait, c'est la mort de ces bouts de cailloux, quoi.
Oui.
C'est
alors ça. ils circulent en bande.
Hein. Ah oui.
On les appelle les géocroiseurs ou aussi les météoroïdes, et donc ce sont les couches un peu extérieures du géocroiseur qui se mettent à se transformer en étoiles filantes. Voilà. Donc alors de temps en temps il y en a qui sont un petit peu plus lourds etc, mais généralement ce sont quand même des poussières. Ce n'est pas un phénomène rare, et la Terre est en fait constamment bombardée par des débris cosmiques. Ouais. Alors tout ça ne vous dit pas quel est le rapport entre les étoiles filantes et l'été qui nous occupait au début.
Qui arrive d'heure en heure.
Eh bien, voilà. Eh bien, par exemple...
On va attendre le printemps d'abord, mais bon.
En août, on voit des étoiles filantes.
Oui, c'est vrai.
Vous avez souvent
bien
vous
sûr.
Dit, voilà, en août, je vais regarder les étoiles filantes.
Il y a la nuit des étoiles, d'ailleurs, je crois.
Oui, mais ça, la nuit des étoiles, c'est pour voir les vraies étoiles.
Ah oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un rapport? Est-ce que ce n'est pas parce que c'est la clarté
Alors, il y a un rapport... Il y a la clarté, tout ce que vous voulez,
mais
le véritable facteur de la présence des étoiles filantes en août, c'est la comète périodique Swift-Tuttle.
Swift-Tuttle.
Voilà, qui est du nom de deux astronomes qui l'ont découvert, Lewis Swift, qui l'observa le 16 juillet 1862, et Horace Parnell Tuttle, qui l'observa 3 jours plus tard. Donc voilà, je ne sais pas s'ils se sont parlé, s'ils ont été boire un coup, mais ils se sont dit « Notre truc, ça ressemble à une comète. » Et donc, c'est une comète qui circule et en fait ce qu'il se passe c'est qu'elle a un essaim, elle a une espèce de queue quoi, de traînée de débris que la Terre traverse tous les ans.
Oui.
Entre la mi-juillet et la mi-août.
Tiens.
Donc en réalité c'est nous qui traversons une sorte de nuage d'embouteillage d'étoiles filantes.
Oui, oui,
et
oui.
Non,
c'est pas... pour ça qu'on les voit statistiquement plus. C'est ça?
Ah ben on les voit en août parce que c'est entre la mi-juillet et la mi-août, parce que c'est entre la mi-juillet et la mi-août. Imaginez, voilà, la Terre, on sait bien qu'elle tourne, hein, voilà. Elle tourne, je veux dire, elle ne se contente pas de tourner sur elle-même, elle tourne.
Oui,
elle
oui,
fait
bien
un,
sûr.
Elle décrit
elle tourne
un,
sur elle-même, mais elle fait
décrit,
un arc de cercle.
Elle décrit un très grand arc de cercle, et donc cet arc de cercle, en fait, passe tous les ans entre la mi-juillet et la mi-août, au milieu du nuage de la comète Swift-Tuttle. Alors, cette comète, en même temps, quand même, elle n'est pas toujours au même endroit, elle se déplace, et donc, des simulations sur l'orbite de la comète indiquent qu'elle devrait frôler la Terre en 3044.
Oula.
Mais elle ne passera qu'à environ 1 million de kilomètres, donc je ne sais pas. En tout cas, des gens pensaient qu'il y aurait une collision en 2126,
oui.
Et là, pour 2126, a priori,
on est tranquille.
On sait maintenant que c'était une erreur ou que les choses ont un peu dérivé.
Il y a eu du changement.
Et donc, pas de comète de Swift-Tuttle en pleine poire en 2126. Les étoiles filantes, c'est aussi bien sûr un thème de poésie. Et ce qui est formidable avec le web aujourd'hui, c'est que vous avez accès gratuitement à la poésie. Moi, quand j'étais petit, les anthologies de la poésie, on se battait pour les avoir. On se battait aussi pour avoir les figurines Panini avec des footballeurs. Mais quand même, trouver un poème, c'était pas toujours quelque chose d'évident. Victor Hugo, par exemple, a écrit un poème qui s'appelle « Les étoiles filantes » en 1865. Alors Victor Hugo, vous savez, il y a le grand Hugo avec qui fait de temps en temps des choses exceptionnelles, et puis il y a le Hugo habituel qui a une espèce de verve, mais qu'il utilise de manière un peu indifférenciée. Donc là, « Les étoiles filantes », c'est un peu ce qu'il a fait. Il a dit « À qui donc le grand ciel sombre jette-t-il ses astres d'or, pluie éclatante de l'ombre ? Il tombe encore, encore. Oh. » Voilà. Bon, donc ça, c'est du Victor « Encore, encore ». C'est du Victor, voilà.
À la petite semaine, on va dire.
Non, ouais, c'est ça. Ouais. En revanche, François Copé, j'aime beaucoup Victor, hein, mais bon, il a écrit tellement de pages qu'il y en a des bonnes et des moins bonnes. François Copé, autre poète français, un petit peu moins, évidemment, universellement connu que Victor Hugo, mais tout de même, a écrit en 1877 un poème qui s'appelle « Étoiles filantes » et que je trouve, lui, vraiment très joli. « Dans les nuits d'automne, errant par la ville, je regarde au ciel avec mon désir, car si dans le temps qu'une étoile file, on forme un souhait, il doit s'accomplir. Enfant, mes souhaits sont toujours les mêmes. » Quand un astre tombe, alors, plein d'émoi, je fais de grands vœux afin que tu m'aimes. Et quand on exile, tu penses à moi. À cette chimère, hélas, je veux croire, n'ayant que cela pour me consoler. Mais voici l'hiver, la nuit devient noire et je ne vois plus d'étoiles filer.
Alors lui, il dit en automne. Vous avez vu ?
Voilà, oui, absolument, voilà. Absolument. Lui, il voit les étoiles filantes en automne. François Copé, bah, c'est parce que c'est un poème un petit peu. C'est un poème un petit peu mélancolique.
Voilà. Et donc, il fallait trouver une bonne rime, peut-être.
Et donc voilà. Donc voilà. Bah, c'était un crash test de promenade sur la toile. Exactement. Sur les étoiles filantes.
Voilà. Et puis un crash test aussi qui nous donne envie d'être en été.
En été.
Voilà. Merci beaucoup, Antoine. Antoine Cyr, vous le savez, chaque samedi dans l'atelier numérique pour son crash test. L'atelier est terminé. Merci d'avoir été avec nous. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Rendez-vous samedi prochain, 16h-18h sur BFM Business, uniquement sur BFM Business. Salut à tous.